Nous allons commencer par les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi. Alors aujourd'hui, je crois, Marie-Odile, que tu vas nous parler du thème de la déontologie dans la filière électronique.
Oui, bonjour Étienne, tout à fait. Donc, récemment, deux transcriptions ont particulièrement retenu mon attention, dont les intitulés sont « Le numérique peut-il être écologique et responsable ?» et « Concevoir de manière responsable l'exemple de Fairphone ». Vous trouverez les liens vers ces deux transcriptions sur la page des références concernant l'émission d'aujourd'hui sur le site de l'April. En 2018, on comptait 15 milliards d'équipements numériques, ordinateurs, consoles de jeux, smartphones. On en prédit 65 milliards en 2025. À l'heure actuelle, il y aurait 8 milliards d'abonnements mobiles dans le monde, plus que d'êtres humains. Certes, nous avons tous constaté récemment que ces formidables équipements sont devenus indispensables dans des secteurs comme le monde médical, le monde de l'éducation et bien d'autres. Mais ils sont aussi une source importante d'impacts environnementaux. Ces impacts sont concentrés principalement au moment de la fabrication des équipements, au moment de la production de l'électricité qui va les alimenter et au moment de leur fin de vie, quand ils deviennent des déchets qui sont mal ou pas recyclés. Dans un téléphone portable, on compte à peu près 200 composants fabriqués à partir d'environ 40 matériaux différents, dont ce qu'on appelle les terres rares, utilisés aussi pour les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, donc l'énergie dite renouvelable, l'électronique, les véhicules électriques. L'exemple des smartphones s'applique à la globalité de l'industrie électronique. La phase de fabrication est celle qui concentre à elle seule trois quarts des impacts. Elle se déroule dans des pays émergents éloignés de la zone européenne, souvent sur des arrière-fonds de conflits armés et de corruption. Les forêts primaires sont rasées, les écosystèmes détruits sur des hectares. Dans les mines, il faut déplacer de grandes quantités de matière pour récupérer des quantités relativement petites de produits utiles. C'est le cas des terres rares dont les ressources s'épuisent. La roche ou les minerais sont alors dissous à l'aide de produits toxiques pour récupérer ces métaux. Phase très polluante, vorace en eau, avec détournement de l'utilisation de l'eau potable et contamination des sols et des fleuves. Les conditions de travail sont très difficiles, voire dramatiques. Ce sont souvent, entre guillemets, des auto-entrepreneurs qui vont, avec leur propre matériel plus ou moins performant, creuser des tunnels sans aucune régulation. 1 million d'enfants travaillent dans ces mines pour 1 ou 2 euros par jour. L'assemblage du produit final a lieu principalement en Chine, où la main-d'œuvre est un petit peu moins chère, même si c'est de moins en moins le cas. On estime à 53 millions de tonnes la quantité annuelle de déchets électroniques, dont moins de 20% sont collectés, recyclés de manière efficace, sans polluer, dans une usine reconnue officiellement. On ne sait pas ce qu'il advient des 80% restants. Le constat étant fait, il faut maintenant réveiller les consciences, et c'est ce que font les intervenants et intervenantes dont les propos ont été transcrits. Agnès Crépé et Alice Dodu de Fairphone, Frédéric Bordage de Green IT qui était intervenu dans l'émission Libre à vous du 17 septembre 2019, Vincent Courboulet, maître de conférence en informatique à La Rochelle Université, et Sophie Comte, cofondatrice du magazine Chute. Devons-nous, utilisateurs et utilisatrices, suivre la mode pour nos outils technologiques sur lesquels sont développées des fonctions, avouons-le, pas très utiles, dont le modèle économique est basé sur la notion de désir. Or, nous, Européens, occidentaux des pays riches, donnons des signaux de ce qui est fun, de ce qui est cool, quasiment au reste de la population. Est-ce raisonnable ? L'équipement le plus vert, c'est celui qu'on ne fabrique pas. Et nos usages numériques les plus respectueux de la planète sont ceux qu'on modère le plus possible. Prendre soin de son terminal, smartphone ou ordinateur, pour pouvoir l'utiliser longtemps, permettra de réduire son empreinte numérique. D'où la nécessité de prendre en considération le réemploi. donner une seconde vie à nos équipements numériques, les reconditionner, les remettre à un état quasi neuf pour qu'ils puissent être réemployés, devient fondamental. De plus en plus de Français sont intéressés par l'achat en reconditionné. Il y a donc bien envie d'une consommation plus responsable. La filière réemploi se développe principalement au travers de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des emplois locaux, d'insertion ou liés au handicap, non délocalisables. Un formidable terreau d'emploi. Nous, utilisateurs, avons les cartes en main. Chacun d'entre nous peut agir à son humble niveau. Les pouvoirs publics ont aussi leur rôle à jouer. Les intervenants se montrent optimistes et affirment qu'il y a une prise de conscience récente de la nécessité d'encadrer cette filière reconditionnement-réemploi avec quelques promesses pour l'année 2021. Des standards internationaux existent depuis plus d'une dizaine d'années concernant la prise en compte des aspects environnementaux dans le cycle de vie des produits. Des dizaines d'entreprises éco-conçoivent concrètement des services numériques. Fairphone en fait partie et son approche est l'exemple à suivre. Pensez une éco-conception qui consiste à inclure dès la fabrication les impacts environnementaux, sociaux et humains du produit. Fairphone est une société néerlandaise qui fabrique un téléphone. Mais ce téléphone est un moyen, absolument pas une finalité. Son objectif est de lever l'opacité, d'expliquer les chaînes d'approvisionnement et divulguer son savoir librement à d'autres, consommateurs ou fabricants de téléphones, mais aussi à l'industrie électronique au sens large. La fabrication d'un téléphone de façon éco-conçue donne aux militants de Fairphone légitimité et crédibilité afin d'influencer d'autres partenaires et favoriser la transition vers une industrie électronique plus vertueuse. Certes, le prix de ce téléphone durable et éthique est conséquent, mais sans doute plus juste. Des contacts sont tissés avec les ONG et les gouvernements locaux pour s'assurer que les matériaux utilisés ne sont pas entachés de sang, pour permettre petit à petit de combattre le travail des enfants dans les mines, améliorer les conditions de travail des mineurs artisanaux, ainsi que les conditions de vie des travailleuses et travailleurs au moment de l'assemblage dans les pays asiatiques. De plus, ce téléphone est constitué de modules indépendants. Il est facilement démontable, c'est un téléphone réparable. Le sujet des logiciels est évoqué, mentionnant qu'il existe des solutions alternatives à Google et Apple. Chez Fairphone, on travaille à rendre disponibles des mises à jour durables dans le temps, nécessaires à la longévité du produit. Certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être Serge Latouche, un auteur dont j'ai particulièrement apprécié les ouvrages. Professeur d'économie, il a développé au début des années 2000 le concept de décroissance, une décroissance soutenable. Actuellement, on a forgé des expressions et des démarches comme sobriété numérique ou numérique responsable. L'objectif derrière est bien le même, aider au quotidien les citoyens à réduire leur impact environnemental en réfléchissant en amont à la réelle nécessité de l'acte d'achat. L'objet le plus durable reste celui que l'on possède déjà. En faisant un choix éclairé au moment de l'achat, l'objet est-il réparable? Et en ayant un usage raisonné et raisonnable numérique. Vous trouverez, en lisant les transcriptions, divers conseils utiles et faciles à mettre en œuvre par chacun d'entre nous. Nous sommes toutes et tous concernés, individus, entreprises et pouvoirs publics. L'expérience de Fairphone, la remarquable démarche vertueuse de ses militants et militantes, est un modèle de déontologie à faire connaître au plus grand nombre. Oui, il est possible de rendre nos équipements plus durables. Oui, il est possible au moment de leur fabrication de prendre en compte non seulement les problématiques environnementales, mais aussi les problématiques sociales et humaines, c'est-à-dire penser aux hommes, aux femmes et hélas aux enfants qui sont derrière chaque appareil.
Merci Marie-Odile pour ce sujet ô combien important, et d'ailleurs je trouve que tu fais intelligemment le lien entre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux qui sont justement inséparables en réalité. Puis je vais profiter de ta chronique pour effectivement saluer Frédéric Bordage que tu as mentionné, avec qui nous avions agi sur le projet de loi économie circulaire pour lutter contre l'obsolescence logicielle. Et puis on va également en profiter pour saluer le travail d'Antanac, hein, qui est une association basée justement sur le don et le partage, et qui fait de la récup de matériel informatique reconfiguré avec des logiciels libres, et qui elle nous propose chaque mois une chronique justement dans Libre à vous, que libérer d'autres que du logiciel. Donc merci beaucoup Marie-Odile, je vais te dire bonne journée et au mois prochain.
Peut-être au mois prochain. Peut-être. Merci à vous, bonne émission.
Salut Marie-Odile.